Grand reportage.
Madame, enlevez le téléphone du sac.
On avait peur. Moi, c'est la peur qui m'a marquée. On ne savait pas comment gérer. Avec les masques, ils étaient périmés. On avait que ça, mais on a fait avec. Et heureusement, on va dire, ou malheureusement, à cause du Covid, il y a toutes les lumières qui sont sur nous. Et du coup, on écoute un peu plus. J'espère qu'ils nous écoutent un peu plus pour qu'ils revoient tout ça, notre salaire, les conditions, tout. Et j'espère honnêtement.
C'est une crise sans précédent que les hôpitaux français ont traversée avec le Covid-19. La période aura éclairé d'un jour nouveau ce que l'on savait déjà, le manque de moyens criant dans les hôpitaux publics. Le virus n'a pas disparu et les soignants, érigés en véritables héros pendant des semaines, applaudis des balcons tous les soirs à 20h, réclament désormais une véritable reconnaissance de la part du gouvernement, des salaires décents et de meilleures conditions de travail. Exemple, avec un établissement de Seine-Saint-Denis en région parisienne, Robert Ballanger, un hôpital face à la crise. C'est un grand reportage de Muriel Paradon.
Nous sommes au service des urgences de l'hôpital public Robert Ballanger à Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Le département, parmi les plus pauvres de France, a été particulièrement touché par le Covid-19. L'hôpital a été très vite mobilisé.
Là, c'est la zone Covid. Donc nous, on a partagé le service en deux, en fait, dans toute cette zone-là aussi. Où on met des malades les plus graves, en fait.
Le docteur Valérie Raphaël, médecin urgentiste.
Un box, 2, 3, 4, 5, 6, 7 box.
Et là, vous êtes bien équipé, là.
Ouais.
Vous avez blouse.
Ouais, je suis bien équipé, blouse, gants, masque. Et j'ai une visière.
Bien protégé, le docteur Raphaël entre dans un box, une petite chambre réservée aux patients Covid. Elle en ressort quelques minutes plus tard.
C'est un monsieur âgé, enfin, là il est plus contagieux en fait. On s'est habillé parce qu'il a eu une sérologie positive il y a 10 jours. Donc il a des anticorps, il a fait le Covid. Hein. Et puis là il est un peu fatigué. Fatigué parce qu'il est âgé, dépendant, il vit en maison de retraite. Alors c'est peut-être les conséquences du Covid quand même, hein, l'aggravation de son état neurologique, c'est peut-être les conséquences. On va quand même lui refaire un bilan, on va revoir un peu le dossier. Il a un dossier chez nous, l'hôpital ?
Oui,
il a un dossier. Ouais, voir comment il était exactement. Est-ce que c'est en gériatrique, tout ce que vous
Plusieurs fois.
Mais là, il n'est pas très en forme quand même.
Il a du mal à respirer.
Ça. Ouais, puis ouais. Il n'est pas très conscient. Alors je ne sais pas comment il est d'habitude exactement, il faut qu'on regarde. Voilà,
le docteur Raphaël, 30 ans de métier aux urgences, est accompagné d'une jeune interne. Francine Benzola achève sa formation en médecine. Pour ses débuts, elle s'est retrouvée plongée dans l'épidémie de Covid. Un cauchemar qu'elle espère ne jamais revivre.
Franchement, c'était pas facile. Déjà, au début, on n'était pas trop préparé à ça. Voilà, après, on était obligé à tout moment d'agrandir l'espace Covid. Puis on avait des patients qui étaient en mauvais état, qui arrivaient tous les jours, de voir les gens qui étaient en train de mourir. On intubait parfois beaucoup de patients. C'était dur. C'était dur et aux étages, là-bas, il fallait toujours agrandir les chambres d'accueil pour Covid. Donc, il y avait presque plus des médecines propres. C'était plus ces Covid, les Covid, les Covid.
Vous en avez moins maintenant ?
Pour l'instant, franchement, on en a moins. On en a moins et le peu qui arrive sont rarement Covid. C'est tant des suspicions, ils ne sont pas de Covid. Pour l'instant, la médecine propre est en train de reprendre de la place. Mais après, on reste sur nos gardes parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, surtout avec les déconfinements et autres. Pour l'instant, on reste sur nos gardes. On ne crie pas encore victoire.
Vous avez peur de cette fameuse deuxième vague qui pourrait arriver éventuellement ?
Oui, hein. C'est vrai qu'on est médecin, on est habitué à pouvoir voir les gens peut-être en train de souffrir. Mais ce qu'on avait vu là, c'était atroce. Moi, personnellement, je me demandais, c'était voir des gens ici, là, tous les couloirs remplis, partout, des gens qui sont en train de désaturer, tout le monde sous oxygène. Et c'est dire qu'il y a une personne qui peut nous quitter d'un moment à l'autre. C'était pas facile. Revivre ça, non.
Aujourd'hui, le nombre de cas de Covid a bien baissé. Mais au plus fort de l'épidémie, près d'un tiers des 700 lits de l'hôpital Ballanger étaient occupés par des patients atteints par le virus. Des services entiers ont dû se transformer très rapidement pour les accueillir, comme celui de cardiologie. Le docteur Zouina Issad travaille dans ce service depuis un an. Cardiologue de formation, elle a dû s'adapter à l'arrivée de cette nouvelle maladie et à une réorganisation totale de l'hôpital.
C'est quelque chose qui, pour moi, est tout à fait inédite. Tout à fait. Et pourtant, j'ai vu dans ma vie des cas de tuberculose, des cas de rougeole qui évoluaient dans un contexte endémique. Mais autant de malades en peu de temps, en aussi peu de temps, c'est très nouveau. Et ça, effectivement, ça nous a beaucoup surpris. Il a fallu rentrer en plan blanc, donc tout l'hôpital était en plan blanc, ce qui veut dire qu'on a été réquisitionnés en tant que personnel, donc on était tous là et en même temps. Et c'est particulier, pas droit au congé, pas droit au week-end, pas tout le temps en astreinte, donc ça mobilise beaucoup de monde. Il a fallu s'adapter, il a fallu ouvrir des lits, il a fallu adapter des services, il a fallu créer des lits de réa. Ça a été un apprentissage.
Du coup, on désinfecte tout, le lit, les meubles, tout. Les scopes, on laisse rien, et on change les draps et on aura une entrée par le SAMU, un patient qui n'est pas bien, voilà. On fait cours aussi dans la salle de bain. On vérifie tout.
Samé est aide-soignante en cardiologie. Elle prépare la chambre d'un nouveau patient dont elle va s'occuper. Hygiène, repas, aide aux soins aux côtés des infirmières, ces tâches sont nombreuses. Pendant la crise Covid, elle a été réquisitionnée comme les autres et s'est retrouvée désarmée face à cette maladie. Une expérience qu'elle résume en un mot, la peur.
On ne savait pas comment gérer, et on avait peur. Moi, c'est la peur qui m'a marquée. Et aussi de voir la souffrance des patients. Mais je me rappelle, c'est des images qui vont rester marquées à vie. De voir une personne souffrir comme ça, de mourir étouffée, qui s'agite, qui cherche l'air. Et toute seule, sans la famille. On était là, il y a mes collègues, il y en a qui sortaient, il y en a qui craquaient, il y en a qui pleuraient, il y en a qui vomissaient. Moi, personnellement, j'étais pas bien au début. Vraiment. Il y avait la peur, en fait, pour tout, parce qu'il fallait rester avec une surblouse toute la journée. L'organisation, on savait pas comment faire. Mais on n'était pas protégés. On n'avait que le masque chire. Et je me rappelle un patient carrément qui a vomi, qui avait la diarrhée. Et on n'avait rien, que le masque chire. Et on avait à gérer un patient. D'ailleurs, il est décédé dans la nuit même. Mais voilà, ce qui faisait peur, c'est ça.
Est-ce que vous avez eu peur aussi d'attraper la maladie?
Bien sûr. Du coup, on psychotait dès qu'on avait un petit truc. Avec les masques, ils étaient périmés. J'avais mes collègues avec les masques périmés, avec la mousse, la noire, qui rentrait dans leurs yeux, dans la bouche. Elles avaient les yeux tout rouges. On avait que ça, mais on a fait avec.
Le manque de matériel de protection pendant cette crise Covid, l'hôpital Ballanger y a été confronté comme de nombreux hôpitaux publics en France. Un manque de stock, mais aussi des vols. Selon Alicia Dodard, une infirmière qui ne mâche pas ses mots.
Au début, c'était le chat. C'est de la solution hydroalcoolique qui nous permet de nous nettoyer les mains. Ça, il y a eu une grosse rupture. Il y en a dans chaque chambre, sauf qu'il y avait énormément de patients, de familles qui les volaient. Et après, patients, familles et même du personnel. Hein. Donc, on a dû le retirer de toutes les chambres et en avoir vraiment que sur notre chariot de soins. Donc, il y a eu ça. Après, on a eu les masques. Mais par rapport à d'autres hôpitaux, on a été quand même... ça a été... Après, on a eu, oui, un manque de masques qui était assez rationné. On a eu des masques périmés de 2011-2014. Hein. On a des masques très périmés, même des FFP2 où ça sentait la moisissure, mais il n'y a pas le choix parce qu'il n'y avait plus que ça. Donc après, franchement, on n'est pas non plus à plaindre. Notre cadre nous a autorisé à porter un masque assez rapidement. On a tout mis un masque. On a pu le changer tous les 3-4 heures, le masque chire. Le masque FFP2, on a pu le changer aussi. Les surblouses, on n'en a jamais eu assez. On a eu des surblouses jetables qu'on devait normalement changer à chaque patient, donc chaque chambre. Ça a été possible quoi? Une journée? Deux jours?
Ça va mieux aujourd'hui, il a de quand est-ce que vous le transférez?
Le manque de matériel a été criant, surtout au début de la crise sanitaire. Mais il est récurrent à l'hôpital Ballanger, selon cette infirmière, même quand il s'agit de produits de base.
C'est arrivé que les patients n'aient pas de pain pendant plusieurs jours.
Du pain?
Oui, parce que le boulanger n'est plus payé. Parce que l'hôpital n'a pas d'argent. L'hôpital n'a pas d'argent, donc même le pain, qui est quand même quelque chose de base, mais le matériel aussi, oui. C'est arrivé, ça arrive que des fois on n'ait pas de gants, ça arrive que des aiguilles, on n'en ait pas. Même, enfin voilà.
J'arrive, il n'y a pas de soucis.
Viens, juste à côté.
L'an dernier, 80 médecins de l'hôpital Ballanger ont interpellé les pouvoirs publics pour dénoncer le manque de matériel et de personnel. Ils ont réclamé à l'Agence régionale de santé la création d'une zone médicale prioritaire pour avoir plus de moyens. Okay. Aujourd'hui, ils attendent toujours des réponses.
Elle est où Valérie ?
Elle est dans la décharge.
Il y a une dame qui devait normalement monter en endocrino. Elle ne peut pas monter en
endocrino. Ah ben voilà, quand j'appelle et que je râle, on me dit tu râles pour rien. J'ai dit qu'il y avait de la place en diabéto, que c'était pas normal qu'à 13h, les trois lits en diabéto. À 14h, il n'y a plus de lits en diabéto.
Aux urgences, c'est un peu la crise. Le personnel se démène pour trouver une place dans un service à une patiente. Elle attend dans une salle, tandis que d'autres sont allongés sur des lits roulants dans le couloir. Le manque de place est courant à l'hôpital, mais il s'est aggravé avec la crise du Covid qui a désorganisé les services. Le docteur Valérie Raphaël.
On a transformé des chambres doubles en chambres seules pour le Covid. Donc forcément, on a un capacitaire réduit. Et là, maintenant que les patients reviennent à l'hôpital, et ils sont lourds, il y en a des patients qui ne sont pas venus parce qu'il y a eu le Covid. Donc maintenant, on les récupère, ils se sont un peu, certains sont un peu aggravés. Un patient très lourd à hospitaliser, et là on est au niveau capacitaire, ça coince un peu. Là, la dame là, qui montait, hein, tout le monde, elle est là depuis hier soir, 17h. Depuis ce matin, j'essaye de trouver une place, c'était compliqué, quoi. Alors qu'elle a besoin d'être hospitalisée, dans un service spécialisé, et ce service, on l'a dans l'hôpital, donc faut que tout le monde aussi retrouve ses marques, parce qu'il y a des patients chroniques qu'il va falloir reprendre en charge, il y a des hospitalisations à programmer. Il y a des patients qui ont pu attendre un mois ou deux, mais il y a un moment, je pense au cancer par exemple, certaines chirurgies, il y a un moment où on ne peut pas les retarder, quoi. Donc il faut aussi que l'hôpital récupère son fonctionnement habituel. Donc là on est dans une phase de, faut équilibrer la balance, parce qu'on a encore des Covid, on a encore des conséquences du Covid, et puis il y a les autres patients.
Je commence à m'asseoir.
Oui, monsieur, j'arrive. Je suis occupée avec d'autres patients. Je viens vous voir dès que j'ai fini.
C'est l'heure de la prise de tension et de température dans les chambres des urgences. Certains patients sont agités. Guillaume, aide-soignant, en a vu d'autres. Désabusé, il constate la dégradation de ses conditions de travail au fil des années.
On a affaire à de la psychiatrie, on a affaire à toutes les spécialités, à des gens qui viennent pour des ivresses, enfin, beaucoup de violences verbales, beaucoup de la violence physique. On a déjà eu des collègues qui ont subi des violences physiques, hein. c'est pas une légende. Hein. On n'est pas là pour ça, on est là pour soigner, on n'est pas là pour se faire insulter, pour recevoir des coups. Voilà. Il y a toutes ces choses qui font qu'on est en crise depuis déjà plusieurs années. Toute l'année, en fait, les urgences, c'est en flux tendu. On reçoit énormément de monde. La structure qui est en train d'être modifiée, elle n'est plus du tout adaptée à la population actuelle. Le bassin de population est en train d'exploser. C'est en train de construire de partout des bâtiments. Et il y a des structures de soins à côté ne sont pas suffisantes du tout. Donc au niveau des médecins traitants, des spécialistes, puis le bassin de population est assez pauvre. Donc du coup, les gens se retournent vers les urgences. C'est la roue de secours, c'est les urgences.
C'est parfait. Une tension de jeune homme.
Les urgences de l'hôpital Robert Ballanger étaient en grève jusqu'à l'arrivée de la crise Covid. Une vieille banderole est encore accrochée à l'entrée du bâtiment. Le personnel réclamait plus de moyens et de meilleures conditions de travail. Le service va finalement être agrandi. Des travaux sont en cours et la direction a promis des effectifs supplémentaires. Car en termes d'effectifs, justement, ça coince aussi. Selon Eric, un infirmier qui travaille ici depuis longtemps.
Moi, ça fait 30 ans que je suis là, ça fait 30 ans qu'on nous fait des promesses, et puis ça fait 30 ans que ça se dégrade. Hein. Tout ça, c'est nos instances qu'il va falloir qu'ils commencent à réfléchir.
Malheureusement, il y a des directions qui comptent en quantitatif, mais pas en qualitatif.
Oui. Ils disent, voilà, leur chiffre, c'est ça, c'est vous avez tant de patients de telle heure à telle heure, donc vous justifiez de tant de personnel. Mais ils ne veulent pas prendre en compte que si, par exemple, j'ai 5 ou 6 patients dans mes urgences, c'est forcément les plus graves et c'est eux qui vont être plus chronophages par rapport au personnel. Que si j'ai 15 patients qui ont un petit bobo, eh ben, on va nous mettre un petit peu plus de personnel, mais ça ne le justifie pas. C'est le quantitatif, mais pas le qualitatif qui est pris en compte. Et ça, c'est un gros problème et c'est un peu général à tous les hôpitaux.
Grande femme énergique, la cadre de santé Marie-Françoise Cohen acquiesce. elle, a du mal à recruter, notamment des médecins.
C'est vrai qu'il y a des matins où il n'y a pas de médecin. Voilà. Et là, la direction, ce n'est pas eux hein, qui gèrent. Hein. Donc effectivement, moi, je prends le téléphone et j'appelle tout le monde pour savoir s'il y a un vacataire en dernière minute qui pourrait venir.
Et pourquoi il n'y a pas de médecin ?
Ben, il n'y a plus de médecin parce que le 93, c'est très compliqué. Service des urgences, plus personne ne veut le faire. Et puis, ils sont payés non plus pas forcément.
Dans le privé.
Ben voilà. Mais il y en a hein, qui font, vous voyez, qui prennent un temps partiel dans le public et qui prennent des vacations dans d'autres hôpitaux. Ils sont nettement plus payés.
Hein. Des salaires décents, c'est aussi le nerf de la guerre pour pouvoir recruter et attirer des candidats. Et certains métiers de soignants ne sont pas bien valorisés.
Qui sait qu'avec Jessie, on s'est fait un semaning dans le couloir la dernière fois ?
Retour au service de cardiologie. Après la distribution des repas aux patients, c'est la pause pour les infirmières et les aides-soignantes qui ont commencé tôt le matin, à 7h, pour terminer à 19h ce soir. Marcel, Waria, Ouria et Samé discutent autour d'une boîte de gâteaux. Elles parlent des promesses gouvernementales, le versement de primes aux soignants pour les récompenser de leur travail durant la crise du Covid et des négociations ouvertes pour augmenter notamment les salaires.
Bah heureusement qu'on aime ce qu'on fait en fait, hein, parce que si on n'aimerait pas, je crois qu'il y a longtemps, c'est vrai, tout le monde serait parti. Hein.
Là maintenant, on a des étudiants en plein stage, ils arrêtent, ils n'ont plus envie.
Vous êtes infirmière. Hein?
Infirmière, oui.
Ouais.
Depuis 10 ans, cardio. Et voilà, beaucoup de. Avant, on n'avait pas ça, mais maintenant, les étudiants, c'est pas. J'ai pas envie de ça, et puis ils arrêtent leur stage. Ouais. Chose que j'avais rarement vue les années précédentes, maintenant, c'est monnaie courante.
Ouais, parce que les salaires, vous, je sais pas, au bout de 10 ans, combien vous gagnez, mais.
Parce que moi, je suis en plus de ça, je suis à 80%. Ouais. Donc voilà, je suis autour des 1700.
Et vous, aide-soignant, c'est encore moins, hein, c'est
oui,
ça
c'est encore moins, oui.
Bah, je suis dans les 1500.
Et alors, vous y croyez, là, il y a des négociations qui s'ouvrent.
Je ne suis pas sûre qu'ils vont nous augmenter. Peut-être quelques euros, mais sinon...
En fait, on a peur, après le Covid, qu'on va rester dans les oublis, quoi. Parce que là...
Parce que regardez, bah, oui. Ce matin, on parlait. On est revenu au même nombre. Pendant le Covid, on avait de l'aide, on avait... Et maintenant, c'est, une fois que c'est passé, on revient à nos travers, on revient à nos habitudes, on revient à l'ancienne façon de fonctionner. Avant ce problème-là, ça faisait des années que toutes les années, on manifestait et limite, on était un peu méprisés. Puis aujourd'hui, ce que les gens avaient prédit depuis des années, bah, on est tombé dedans, quoi. En plein pic. Tous les manques, tous les manquements sont remontés à la surface et puis on l'a ressenti. Alors que depuis longtemps, les gens se plaignaient de ça.
Nous retrouvons le docteur Zouina Issad, arrivée il y a un an seulement à l'hôpital Ballanger. Cardiologue algérienne, comme beaucoup de médecins étrangers, son diplôme n'est pas reconnu en France. Elle est elle-même très mal payée. Elle s'est pourtant battue aux côtés de ses collègues durant cette crise du Covid et elle veut rendre hommage au système de soins français.
C'est vrai que j'ai intégré très récemment le système hospitalier français, mais la capacité à s'adapter à une pandémie qui a été aussi contagieuse, qui nous a tellement bousculés, cette faculté d'adaptation de l'hôpital public, ça force l'admiration. Maintenant, c'est sûr qu'il y a des choses à revoir et que c'est certainement au niveau des politiques publiques qu'il faut voir ça et non pas au niveau des hôpitaux intramuros. Ça, c'est clair. Il y a des choses à revoir dans le fonctionnement des hôpitaux, des choses à revoir dans la valorisation du personnel soignant, dans les dotations qui sont données à l'hôpital, dans les moyens qui sont donnés à l'hôpital. C'est des gens formidables, mais qu'on doit aider.
Depuis plusieurs semaines, les soignants manifestent presque tous les jours à Paris et en province pour réclamer des moyens pour l'hôpital public et une remise à plat du système. Des négociations se sont ouvertes le 25 mai avec le gouvernement, baptisé Ségur de la Santé, du nom de l'avenue où se trouve le ministère. C'est l'avenir de l'hôpital qui se joue. Les soignants, qui avaient déjà mené un vaste mouvement l'automne dernier, sans obtenir gain de cause, espèrent cette fois être entendus.
Robert Ballanger, un hôpital face à la crise, un grand reportage de Muriel Paradon, réalisation Pierre Chaffange. Autour de la